cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard le 15 novembre 1995.
Vous nous avez parlé. L'autonomie biologique, l'autonomie psychologique et l'autonomie métaphysique. Peut-on dire qu'il y a une quatrième autonomie, l'autonomie spirituelle? Ou est-ce la même que l'autonomie métaphysique? Ces différentes autonomies se situent au niveau de la vie et au niveau de l'être. Pouvez-vous préciser? Seule l'autonomie métaphysique est au niveau de l'être. Oui, je comptais de toute façon faire revenir là-dessus pour mieux préciser. C'est très vrai qu'aujourd'hui, on parle énormément de l'autonomie psychologique. Si on réfléchit bien au niveau métaphysique, c'est-à-dire au niveau philosophique, dans ce que le regard philosophique est ultime, nous devons dire qu'il n'y a pas d'autonomie psychologique. Je l'ai cité exprès la dernière fois parce que c'est pour mieux comprendre. Il y a une autonomie biologique, c'est sûr. Nous l'avons tous vécu et nous la vivons. Et cette autonomie biologique prend à certains moments des blessures, la maladie, la vieillesse, les accidents. Ça diminue notre autonomie biologique. On le sent bien. On devient dépendant des autres et du milieu dans lequel on est. On a besoin d'une infirmerie, d'un infirmier, d'une infirmière. Bon, facile à comprendre, pas la peine d'insister. C'est très descriptif. Il y a une autonomie morale. Par la prudence, ce que les anciens appelaient la sagesse pratique. Quand on dit à quelqu'un qu'il manque de maturité, on se place d'un point de vue psychologique. Et au fond, c'est pas juste. Parce qu'il n'y a pas d'autonomie psychologique. Je sais que si je dis ça, on fait bondir tous les psychologues. Mais il faut de temps en temps les faire bondir. Hein, pour montrer que ce n'est pas le dernier jugement. Puisque la psychologie regarde le conditionnement. Comment voulez-vous qu'il y ait une autonomie dans le conditionnement ? C'est impossible. On est toujours conditionné dans le conditionnement. Qui dit conditionné dit dépendance par rapport à la finalité. Alors on peut dire qu'on a des dispositions en vue d'une autonomie éthique, humaine. Le point de vue psychologique n'est pas humain. Au sens propre, puisque ce qui est humain, c'est le volontaire, donc c'est le moral. Et quand le psychologique ne veut pas se placer du point de vue moral, parce qu'il ne regarde pas la finalité, et qu'il ne veut pas regarder la finalité, il y a autonomie. Vous voyez ? Et je crois qu'on doit le dire au point de vue métaphysique. Si vous avez des questions là-dessus, essayez de les noter. C'est important pour bien saisir ce qu'est la psychologie, à quelle place il faut la mettre. Parce que c'est pas commode. Mais il faut regarder le point de départ de la psychologie. C'est pas ancien la psychologie. C'est né, je ne sais pas les dates exactes, mais les premiers manuels psychologiques sont extrêmement intéressants à lire. Dumas, le gros manuel psychologique. Vous savez qui vous donne cet exemple? Bouchez-vous le nez, fermez les yeux, mettez un bandeau sur les yeux. Vous n'arriverez pas à discerner le thé et le café. Ça, c'est excellent pour le cuisinier. Il n'a qu'à se boucher le nez, mettre un bandeau sur ses yeux, il ne peut pas discerner le thé et le café. C'est assez. Il s'est dit dans Dumas. Et on comprend très bien psychologiquement. Alors, il y a une autonomie au niveau moral. C'est la prudence. Il y a une autonomie. Alors, quand je dis métaphysique, au fond, au sens absolument rigoureux, il n'y a pas d'autonomie au niveau de l'être. Mais il y a une autonomie spirituelle. L'autonomie spirituelle, elle vient de la recherche de la vérité, de la contemplation. Et de l'amour d'amitié. Puisque l'amour d'amitié a un certain dépassement par rapport à la prudence. Puisqu'on atteint la fin. Alors, c'est vrai, c'est une autonomie au niveau de la vie de l'esprit. Autonomie au niveau de la vie, de l'esprit, ne peut se comprendre qu'au niveau métaphysique. Je crois que c'est cela qu'il faut dire. Cette autonomie spirituelle de l'intelligence. Fondamentalement, c'est lorsqu'on atteint la sagesse. Vous voyez, sagesse pratique, la prudence. Sagesse tout court. Sagesse tout court, ne disons pas sagesse spéculative, c'est pas juste. La distinction pratique spéculative est en dessous de la sagesse, et la sagesse fait l'unité. Pourquoi ? Parce qu'on atteint l'être premier, Dieu. Il n'y a pas d'autonomie spirituelle au point de vue de l'intelligence. Sans avoir atteint, découvert l'existence de l'être premier. Alors c'est pour ça que dans notre recherche métaphysique, vous comprenez, nous n'avons pas encore, si je respecte l'ordre de découverte, quand je pose le problème de la personne humaine, je n'ai pas encore découvert l'existence de l'être premier. Mais je peux m'appuyer sur les traditions religieuses, j'ai parfaitement le droit, pour montrer que, de fait, il y a une autonomie qui va plus loin que l'autonomie de ma prudence et qui repose sur les traditions religieuses. Alors, elle est encore imparfaite, puisque je n'ai pas vérifié si les traditions religieuses étaient des mythes ou un logos. Mais c'est une attente. Et je dirais qu'il y a là une autonomie au niveau de la sagesse, qui est le lien que je découvre au plus intime de mon être avec Dieu. Mon âme est ancrée directement par Dieu, est autonome par rapport à toutes les causalités secondes. Et là, je peux dire que c'est une autonomie métaphysique. Au niveau de l'être. Vous voyez, si Descartes dit que Dieu est posé pour être le garant de la vérité, je dirais non, Dieu est découvert pour être le garant de mon autonomie au niveau de l'être. C'est beaucoup plus fort. Parce que si je découvre que mon âme est créée directement par Dieu, je suis autonome à l'égard de mes parents, d'une autonomie d'être. Pas au niveau de la vie, oui, au niveau de la vie, j'étais dépendant d'eux. Et puis progressivement, j'ai acquis une indépendance vitale. Mais ce qui est beaucoup plus profond, c'est de découvrir mon indépendance dans l'ordre de l'être à l'égard de tous ceux, de toutes les créatures, de toutes les causes secondes que je peux constater. Je suis dépendant radicalement de Dieu, mais cela ne regarde que moi. Et à l'égard des autres, je suis souverainement indépendant dans mon être. Évidemment, les autres peuvent m'attaquer, me tuer, mais ils ne tuent pas mon être. Ils me blessent à mort quant à ma vie. Mais mon être n'est pas touché par les causes secondes. C'est très important de comprendre ça. Et alors là, c'est vraiment l'autonomie. Vous voyez, au-delà de la métaphysique, c'est une autonomie de sagesse. Donc, spirituelle au très très grand sens du mot. C'est l'autonomie de la sagesse. C'est l'autonomie du sage. Il est autonome dans son être. Tout en sachant la totale dépendance à l'égard de Dieu. Mais à l'égard de Dieu, cette dépendance est sous autonomie. C'est ça qui est merveilleux. Dieu me crée pour que je sois autonome. Et c'est cette parole que je peux citer de l'Écriture et que le pape aime tellement. L'homme est la seule créature qui est créée pour elle-même. Il revient constamment sur cette parole. On voit que ça l'a touché. C'est pas étonnant. La seule créature pour créer pour elle-même, ça veut dire que dès que je découvre ma dépendance à l'égard de Dieu, je découvre mon autonomie totale à l'égard de toutes les autres causes secondes. Et je comprends que cette dépendance à l'égard du Créateur est source de mon indépendance, donc de mon autonomie. Il y a quelque chose de très grand à saisir. Et je découvre, par la contemplation, comment je peux vivre spirituellement de cette autonomie. Parce que par la contemplation, je suis ami de Dieu. Je peux être et vivre en sa présence. Et je mettrai une autre autonomie, une autonomie affective, spirituelle, au niveau de l'amour d'amitié. C'est une autonomie vitale. Par mon ami, je suis autonome. Vous voyez, il y a quelque chose d'analogue avec Dieu, c'est ça qui est très beau. En choisissant l'ami, je suis dépendant de lui. Et lui me rend indépendant, autonome. L'ami est garant de ma liberté, est garant de mon autonomie. Donc, si je vois bien ce point de vue-là, je crois que dans le « je suis », puisque nous partons de là, nous découvrons fondamentalement l'autonomie biologique. Cette autonomie biologique elle existe dès la naissance puisqu'on est libéré de la dépendance première à l'égard de la source maternelle. Mais l'autonomie biologique n'est atteinte que lorsque l'être est parfait. Capable d'engendrer. Parce que quand il est capable d'engendrer, il est capable, il est victorieux de la corruptibilité. Mais, point de vue biologique, le petit enfant est très dépendant quand même de son milieu maternel. Mais il a quand même son autonomie. Et l'autonomie biologique n'est parfaite que lorsque le vivant est parfait, capable d'engendrer. Quand on dit capable d'engendrer, qu'est-ce que ça veut dire ? Victorieux de la corruptibilité. Non pas total, puisque il devra lui aussi disparaître, mais il pourra continuer dans un autre être qui vient de lui. Alors il y a vraiment une sorte de victoire. Vous voyez, on pourrait dire capable d'engendrer et engendrant. Il y a une victoire sur la corruptibilité et sur la mort. C'est donc une certaine gloire. Mieux que l'autonomie dans l'ordre biologique n'est parfaite que là. Et ça, c'est très intéressant à préciser. Parce que, alors, je mets en nota bene, vous comprenez, en éthique chrétienne, on verra que Dieu peut réclamer cette pauvreté à un être humain pour glorifier Dieu. L'esprit de virginité fait que cette gloire humaine est offerte à Dieu pour la gloire de Dieu qui se verra dans la résurrection des corps. Que c'est important d'essayer de comprendre cela au niveau tout simplement de la personne. Il y a, vous voyez, quand le philosophe dit que la procréation c'est la finalité de la vie biologique, c'est la fin de la vie biologique, la fin au sens de la perfection. La vie biologique n'est parfaite que dans la génération. Et elle est parfaite parce que elle est victorieuse de la corruptibilité. Elle atteint quelque chose qui est au-delà de ce temps. Et donc, elle est glorieuse. Alors, en éthique chrétienne, je mets ça entre parenthèses, puisque nous verrons l'éthique chrétienne, la première chose à voir, c'est ce fait qu'il y a possibilité d'offrir la gloire biologique. L'homme peut faire ça, il est le roi des animaux. C'est un acte royal que d'offrir sa gloire. On jette sa couronne dans l'adoration pour la gloire de Dieu. C'est un échange extraordinaire qu'on ne voit pas assez parce qu'on n'étudie jamais ces choses-là au niveau philosophique. Alors on le voit au point de vue moral. C'est pas suffisant. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Oui, on devient vraiment celui qui offre sa gloire biologique. La gloire biologique existe, puisque roi des animaux, notre vie biologique, c'est notre vie animale, hein, par où nous sommes en union avec le lion. C'est qu'on doit faire attention. Parce que lui voudrait aussi prendre notre gloire. Les hommes, instinctivement, puisque un roi ne peut être qu'unique. Alors quand il trouve un autre animal, la plus grande gloire de l'autre animal, c'est qu'il soit, demeure dans le lion. Et comme ça, il connaît une gloire merveilleuse. Et demeure. Mais l'homme a une possibilité de choisir Dieu à la place du lion. Et là, il a la gloire de Dieu. Donc, fondamentalement, l'autonomie biologique, c'est le point de vue de la santé. Et la perfection de la santé capable d'engendrer. Ensuite, l'autonomie au niveau anthropologique, l'autonomie au niveau éthique, morale. L'autonomie morale, c'est la prudence qui implique les vertus. C'est ça qui est important dans les vertus. C'est que les vertus me permettent d'avoir une autonomie morale. Chaque fois que je manque de vertu, c'est une blessure à mon autonomie morale. Ça, c'est sûr. Ça se voit tout de suite au niveau de la tempérance. Vous voyez, on fait exprès le petit exercice de tempérance, faire un cours avant le petit déjeuner pour vous rendre victorieux du petit déjeuner. Du petit déjeuner, c'est pas si mal, c'est la première victoire de la journée, vous voyez, parce que vous pouvez dire oui, je peux mettre un peu de recul, je suis victorieux. Alors si au contraire vous n'étiez pas tempérant, vous seriez complètement dépendant du petit déjeuner, et pendant tout le cours vous ne penseriez qu'au petit déjeuner, et vous voyez que votre autonomie morale est terriblement lésée. Et c'est la même chose si vous n'avez pas la vertu de force. On vous a blessé, vous êtes dans une colère. Et vous attendez œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as donné un coup de poing, tu verras. Au bon tournant. Et alors c'est ça, le point de vue, la dépendance passionnelle. Tandis que l'autonomie, la victoire sur la dépendance passionnelle. Et c'est une victoire. toute autonomie. C'est ça qui est beau de voir ça de cette manière-là. C'est qu'on voit que l'autonomie est une victoire. On se situe au-delà d'un niveau. On n'est plus dépendant. Alors, il y a une dépendance passionnelle. Il y a une dépendance morale au niveau de la justice. Dès que vous commettez un acte d'injustice, vous tombez sous le point de vue de la peine et la prison. Et la prison exprime bien la dépendance. C'est évident. Quand vous sortez de prison, vous retrouvez votre autonomie au niveau moral, éthique, la justice. La vertu de justice vous permet d'être glorieux vis-à-vis de la dépendance politique, sociale. La prudence implique les vertus cardinales, et donc la vertu de justice. Et la vertu de prudence, c'est à l'égard de tous les autres. Vous pouvez poser votre imperium, et l'imperium montre votre indépendance, votre liberté à l'égard de votre vie morale. Troisième liberté, puisqu'ici c'est une sagesse pratique. Il y a une sagesse acquise, qui est la sagesse métaphysique, l'au-delà de la philosophie, au-delà de la métaphysique, qui est la conquête, comprenez bien, conquête de la vérité, c'est-à-dire la découverte de l'être premier. Et vous découvrez le Créateur. Donc sagesse acquise qui implique le point de vue religieux. Mais j'aime mieux dire sagesse acquise que de dire sagesse religieuse, que de dire autonomie religieuse. Au fond, en réalité, c'est ça. Je découvre l'existence de Dieu pour découvrir mon autonomie dans l'ordre de l'être, par mon âme spirituelle. Par mon âme spirituelle, le point de vue de l'intelligence. L'intelligence de sagesse acquise. Je découvre que je suis totalement dépendant de Dieu, mais souverainement indépendant à l'égard de tous les êtres humains, à l'égard de toute créature. Oui, là, je suis souverainement indépendant à l'égard de toutes les créatures. Je dépends directement de Dieu, et Dieu devient pour moi source d'autonomie. Autonomie limitée, dépendante, mais une autonomie plénière à l'égard de toutes les créatures. Oui, je suis le roi des créatures, puisque j'ai cette autonomie à l'égard de toutes les créatures, même à l'égard des, s'il existe des créatures spirituelles, les anges. Une autonomie vis-à-vis d'eux. Donc c'est bien l'autonomie métaphysique, parce qu'elle est au niveau de l'être. Au niveau de laisser participer. Mais entre deux, alors on pourrait mettre deux bis. Une sagesse. Elle n'est pas une prudence. elle est une fin qui n'est pas la fin absolue, mais qui est une véritable fin où je rencontre la vie. Je suis libre, affectivement, dans le choix d'un ami. Alors, c'est une autonomie affective, personnelle. L'ami me rend, me montre mon autonomie. Tu m'aimes, tu es autonome à l'égard de tous les autres. Mais l'autonomie du cœur, l'autonomie de la volonté. Et quand il y a encore un peu trop de fébrilité dans l'ordre de l'amitié, parce que les passions sont encore trop fortes, l'ami ne peut pas nous rendre libres. Il nous montre au contraire nos limites, parce qu'on est fébrile et on dépend de la passion. Alors ce n'est plus l'ami qui me rend libre, parce que je suis dépendant de la jouissance passionnelle. J'aime mon ami parce qu'il me donne une jouissance passionnelle. À tous les niveaux, du reste. Une jouissance passionnelle qui peut être... vide, mais elle est quand même passionnelle. Et puis la grosse jouissance passionnelle, sexuelle, oui, qui ne me donne pas du tout la liberté, qui me rend au contraire dépendant. Tandis que la véritable amitié se situe au niveau spirituel, la rencontre de la personne avec la personne. Et là, il y a une autonomie. Oui, de sorte que je pourrais dire qu'il y a 4 degrés d'autonomie. Vous voyez, en mettant ce numéro 3 là, et mettant le numéro 4, l'autonomie religieuse par rapport à Dieu. Donc, pour nous, puisque nous sommes dans la recherche métaphysique de la personne, je peux dire qu'au plan métaphysique, comprenez bien, au plan métaphysique, vous avez une liberté fondamentale, biologique, une liberté morale, prudence, une liberté amicale, affective, spirituelle, elle est spirituelle, et puis une liberté supra-métaphysique de sagesse. La découverte de Dieu. Alors, la liberté psychologique, qui serait une fausse liberté, elle se situerait à ce niveau-là. Elle est au-delà du biologique. Je découvre ma liberté. Oui, je crois que ceux qui veulent une liberté psychologique, c'est la découverte de ma liberté. Je suis libre, donc autonome. Ah oui, mais vous êtes d'une liberté extrêmement limitée. C'est pas une véritable autonomie. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de finalité. Au fond, là, vous voyez que toute véritable autonomie touche la finalité. La finalité de l'engendrant. La fin de la vie biologique. La finalité au niveau responsabilité, au niveau moral. La prudence. Évidemment, on pourrait dire que certaine autonomie prudentielle, prudence. La liberté de l'amitié qui est au-delà de la prudence. La liberté de la sagesse. Du point de vue psychologique, on n'atteint pas la finalité. Il n'y a pas de finalité. Puisque la psychologie me fait atteindre mon conditionnement. Et je n'ai pas de victoire sur le conditionnement. Sans sortir du conditionnement. Oui. Alors, ce qui est intéressant à regarder ça, c'est que je vois que l'autonomie est le fruit d'une victoire. C'est ma victoire. C'est la victoire acquise. Je suis victorieux quand j'atteins une fin, quand j'atteins ma fin. Oh, j'ai ma fin au niveau biologique. Finalité biologique. Finalité morale. Finalité amicale. La vraie finalité morale. Et finalité religieuse, contemplative. Réfléchissez bien là-dessus. C'est une recherche que nous faisons ensemble, vous voyez. Parce que au fond, quand vous regardez l'autonomie, vous parlez d'autonomie sans analyser. Alors, il faut analyser ces différents degrés d'autonomie. Alors, ce degré-là, nous le laissons pour le moment. Et nous n'en parlons pas pour le moment. On est en attente, puisque celle-là présuppose la découverte de Dieu. Mais nous pouvons, au niveau de la découverte où nous sommes maintenant, au niveau philosophique, parler de ces trois autonomies. Puisque l'éthique, fondamentalement, se repose sur l'amour d'amitié. Alors il faudrait se demander si 3, 2 et 3 peuvent vraiment se distinguer. Ou s'il faut ramener à 3, parce que en réalité la seule finalité que j'atteins au niveau moral, c'est l'amour d'amitié. Alors on pourrait dire que la prudence au service de l'amitié me donne une autonomie, mais la prudence sans avoir saisi l'amitié demeure au niveau justice. Autonomie à l'égard du point de vue politique. J'ai une certaine autonomie. Elle n'est pas parfaite, mais une autonomie. Oui, je suis un homme honnête qui n'a aucune dette. Or, pour beaucoup, l'autonomie, c'est n'avoir aucune dette. L'autonomie d'une communauté dans le monde d'aujourd'hui, c'est n'avoir aucune dette. L'équilibre parfait du budget. Donc je peux faire ce que je veux. Laissez-moi tranquille. Je n'ai pas de dette. Je suis un citoyen parfait. J'ai la tête au-dessus. J'émerge. Il y a une vraie, une véritable autonomie. Qui est propre à la prudence et à la justice. Mais, qui est propre aux vertus. Mais qui n'est pas parfaite. Et elle ne sera parfaite que dans l'amour d'amitié. Dans l'amour d'amitié. Alors là, vraiment, je touche une autonomie nouvelle. Parce que je touche une certaine fin, certaine finalité, l'ami. Alors, là, je découvre bien, puisque je découvre ces trois moments d'autonomie. Ces trois, évidemment, l'autonomie biologique est fondamentale. C'est pas mon autonomie personnelle. Je suis très heureux d'avoir bonne santé. Ça me permet de me libérer de mon corps. Si j'ai pas bonne santé, si je suis blessé, la présence de mon corps est très gênante. Vous commencez à vous apercevoir que vous avez un corps lorsque vous êtes malade. Ça, c'est sûr. Vous apercevez que vous avez un corps lorsque vous êtes blessé. Autrement, vous êtes libre. Donc, c'est une liberté fondamentale auquel je ne m'arrête pas. On pourra se poser à la fin, si on a le temps. Y a-t-il une personnalité propre aux sportifs? C'est une question qu'on doit se poser. Oui. Je fais du sport pour que je sois en forme quant à mon corps. Personnalité dans l'épanouissement de mon corps, le sportif. Non, je veux en réalité m'en libérer de plus en plus. Mettre mon corps à sa place. On verra au terme la place du corps dans la personne humaine. Ici, je vois que c'est fondamental. Cette autonomie. Parce que autrement, je risque d'être très encombré par mon corps. Si je suis malade, obligé d'être alité, mon corps m'encombre. Et le conditionnement de mon corps devient tel que ça devient presque une prison. Je suis prisonnier de mon corps. Et c'est vrai. Grabataire. Handicapé. Ceux qui sont des handicapés quant à leur corps, qui prend une force énorme. Donc, c'est fondamental pour la personne humaine, mais ce n'est pas du tout ce qui détermine la personne humaine. Je ne peux pas dire que mon corps me donne ma véritable autonomie. Je dirais, mon corps a cet immense avantage. S'il va bien, c'est qu'il me rend libre. C'est une autonomie très particulière. Je suis heureux d'avoir un corps en bonne santé pour le quitter. Oui, pas pour demeurer. Pour le quitter. Donc c'est une condition sine qua non pour la vraie personnalité, pour la véritable autonomie. Condition sine qua non. Parce que si mon corps devient malade, devient trop vieux, oui. Je suis encombré par lui. Il m'encombre. Il commence à m'encombrer. Et quelquefois, il m'encombre tellement que je ne peux rien faire en dehors de respirer. Un moribond, il ne peut faire qu'une seule chose, c'est de respirer. Et toute son énergie corporelle est pour respirer jusqu'au dernier soupir. Mais c'est très, très curieux. Et alors, la limite, évidemment, de cette autonomie, c'est la mort. Mais la mort peut être considérée comme une libération. Oui. Quand vous voyez la mort d'un vieillard, infirme, impotent, à l'hôpital, dans le coma depuis très longtemps, vous dites, ah, il est libéré. Oui, et libération. Platon est vrai pour l'impotent. Platon est vrai pour le moribond. C'est une philosophie de moribond. Parce que la mort est une libération. Et pour celui qui est en pleine santé, non, la mort n'est pas une libération. C'est un handicap. Et comme c'est curieux, ça. Et ça, c'est tout le propre du conditionnement. Quand tout va bien, le conditionnement, je m'en occupe pas. Et dès que je suis malade, ah, le conditionnement me détermine. Il me détermine si bien qu'il s'achève dans la mort. Et alors la grande question de savoir, est-ce que la mort est une libération, donc qui me conduit vers une nouvelle autonomie? Ou est-ce qu'au contraire, la mort me plonge dans une totale dépendance vis-à-vis de la matière? Je ne suis plus maître de mon corps et je l'abandonne. Vous savez, quand il y a sur mer un petit bateau, le fameux exemple que prennent tous les moralistes, on est tellement secoué, le bateau risque, alors on jette tout à la mer. Pour uniquement sauver. Alors il y a ça, on jette le corps, on le jette dans l'anonymat du monde pour être libéré, parce qu'il était trop lourd. Alors vous voyez, vous pourriez avoir la mort, libération d'un fardeau. Il y a quelque chose de juste. La mort, brisure, victoire du conditionnement. Et donc vous êtes vaincu. Vous avez deux regards sur la mort. D'accord, libération, Platon, la mort du moribond. Et la mort qui est l'échec. Je suis vaincu. Vaincu par la mort. Et je suis obligé de lâcher mon corps. Alors que c'était un compagnon si fidèle. Il a vécu avec moi tout le temps. Il a peiné avec moi. Il n'a pas été trop méchant. Alors je suis obligé d'être vaincu et de l'abandonner. Et je l'abandonne. Alors vous voyez la situation du corps dans l'autonomie, dans le point de vue premier, fondamental de la personne humaine. C'est intéressant. Au fond, là, je le considère uniquement comme quelque chose de fondamental. Je considère l'autonomie morale comme une conquête. C'est une conquête. Et c'est là que je vois l'importance du point de vue de l'éducation qui permet de me donner une véritable autonomie. Parce que c'est par là que je peux choisir grâce aux vertus acquises. Je peux choisir. Je peux choisir librement un ami. Et c'est dans l'amour d'amitié que je fais l'expérience la plus profonde de mon autonomie, de mon je suis. C'est face à mon ami que je découvre qu'il y a à la fois dépendance dans l'ordre affectif. Je l'ai choisi comme ami. Et l'ayant choisi comme ami, je ne peux pas l'abandonner. Je l'aime, je suis lié à lui. Mais je suis lié à lui d'une manière qui n'est pas totale. Parce qu'il y a en moi mon être qui ne dépend pas de lui. Et je me pose alors la question, de qui dépend cet être? Je ne le domine pas entièrement. Je ne suis pas entièrement autonome dans mon être, puisqu'il m'est imposé, il m'est donné. Mais il y a quand même une certaine indépendance. Et donc, au point de vue personne, l'autonomie, mais l'ami me révèle qu'il y a en moi une indépendance radicale dans l'ordre de l'être, mais qui est limitée. Et qu'il y a une possibilité de me donner à un autre amicalement au niveau affectif, au niveau supramoral, de me donner amicalement à une autre personne. Et que grâce à cet amour d'amitié, je découvre que l'ami est celui qui me révèle à moi-même mon amitié, mon autonomie dans ce qu'elle a de plus fondamental au point de vue philosophique. En attente d'une découverte plus profonde encore, celle qui se fera par la découverte d'un être